With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Walk him to the car, and they're gonna, all right, I'm gonna fuck you a blade.
Howard.
All right, I'll call you back.
Son of a bitch.
Otto, I'm doing Otto.
Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans ce studio, Aurélien, comment vas-tu?
Ça va bien et toi?
Alors normalement à côté de toi il y a Guillaume, mais il c'est ne vrai. Peut être présent aujourd'hui. Du coup, pour cet épisode, il sera remplacé par Mehdi. Mehdi que vous connaissez désormais si vous suivez assidûment le podcast. Comment ça va Mehdi?
Ça va et toi?
Bah écoute, très bien. T'es content d'être là ou pas?
Ouais, super, c'est ouais, le triple retour.
C'est vrai que c'est le triple retour, il est ravi. Tu nous as préparé des petits trucs apparemment.
Oui, bon, comme à mon habitude, hein, des petits jeux.
Ouais, ben,
on va se régaler.
Il régale, mais... Avant d'introduire l'invité, je tiens à vous dire que le prochain épisode sera un épisode spécial Noël avec deux d'entre vous. Alors si vous voulez être les prochains invités et venir ici en studio avec nous, abonnez-vous à mon compte Insta, tête sur le clic, je ferai une annonce dans les prochains jours pour vous expliquer comment participer. Et aujourd'hui, nous recevons dans ce studio quelqu'un qui me fait beaucoup rire, Alex Magie. Comment tu vas?
Ça va très bien, merci pour l'invitation.
Alors est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas?
Petit prince du reggaeton européen. Voilà,
okay.
donc vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur Spotify et toutes les plateformes musicales. Mon sobriquet de reggaetonneur, c'est Young Jeun. Voilà, donc le dernier album s'appelle Vive le 17, Fuck le 18. Voilà, du reggaeton, de la trap, de la drill européenne, plein de mélanges musicaux. Et sinon, bah, je suis scénariste et. Et nouvellement réalisateur, voilà.
Alors justement, l'idée c'est de faire une promo pour commencer, parce que t'as sorti un film il n'y a pas longtemps qui est dispo sur OCS.
Ouais, qui s'appelle Cardio, donc une comédie, une farce noire, avec Lionel Belansky, Sébastien Chassagne, Solène Rigaud, Abraham Wepler, plein d'autres gens.
C'est différent qui enchaînent les films. Hein.
Ouais, que des cartons.
Bah oui.
le film de Babor.
On a reçu Babor la semaine dernière, il nous disait ouais, dans mon film il y a des différents, etc. Il joue dans tous les films en fait.
Oui, mais après il est gratuit, c'est aussi pour ça qu'il est autant appelé, je crois. Et donc, ouais, non, casting super sympa. Et Benoît Forjard.
Alors, je crois que le film est dispo à une certaine période de temps sur OCS.
Ça doit être 2-3 mois. Et là, vendredi, sort une interview dans le cadre d'une émission qui s'appelle Cours Central sur OCS. Et le film sera libre accès pendant un mois. Donc, c'est le moment, quoi.
Et alors, c'était cool d'avoir. Parce que moi, j'adore Lionel Abelansky. Mmh. Je l'avais découvert quand j'étais ado dans Delphine 1, Yvan 0.
Ah ouais.
Le film. Et
Farrugia, le film, non, ça?
Exactement. Ah. Et je trouve que cet acteur est vraiment drôle.
Ah ouais, et
alors, c'était bien de tourner avec lui?
C'est super.
Okay.
Très facile, même quand tu l'emmènes à 22h dans les bois de Vincennes et que tu vois, merde, que tu vois pas les marques au sol, il ne se plaint pas. Tu vois.
Il se la joue pas star, quoi.
Non, il est très simple. Tu
c'est
vois,
différent aussi, il se la joue pas star.
Un peu plus.
Ouais, ouais. Très bien. Oui, d'ailleurs, je vais passer un extrait de. Parce que donc, Young Jeun, c'est aussi ton nom d'artiste. Donc, ouais. Parce qu'il n'y a pas simplement le dernier album, il y avait aussi, je crois, l'école. Du biberon, non, c'est quoi déjà le titre?
Ah, il est technique. C'est l'école Montessori du biberon d'argent.
Oui, voilà.
Un album dédié à la petite enfance.
D'accord.
Et au reggaeton, encore une fois.
On va écouter un extrait.
Je l'aimais trop comme un frotteur de métro. Obligé de dealer pour lui acheter des vrais bijoux, pas du faux. Young Jeun, dédicace aux girls qui se respectent. 24-24 sur le terrain gadjo, titulaire comme Pierre Alain Froh. Obligé de dealer pour lui acheter des vrais bijoux, pas du faux. Car je l'aimais à la folie, je l'aimais trop.
Attends, qu'est-ce qu'on aurait pu dire d'autre? Oui, parce que du coup, moi je t'ai découvert sur Twitter, je vais trouver ça drôle. Et tu fais aussi des chroniques sur. Enfin, tu faisais, je sais pas, sur Radio Nova des chroniques.
Ouais, j'en ai fait 4.
Ok.
5 peut-être.
Ok. Voilà.
Non, c'est un remplacement. Et je crois que l'humour sulfureux ne plaît pas trop à cet enfant.
J'avais bien aimé la chronique sur les pastas à la carbonara.
Écoute, ouais, un peu raciste des Italiens, j'ai l'impression, chez la Radio Nova.
Ouais, c'est la Radio Nova. Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film que j'avais placé sur la chaîne à la première place de mon classement de fin d'année en 2019, à savoir Uncut Gems.
«
réalisé par Josh et Ben Safdie, Uncut Gems situe l'intrigue en 2012 à New York et raconte l'histoire d'un bijoutier se livrant à divers combines qui vont très rapidement le rattraper. Ce film, produit par A24 et porté par un Adam Sandler formidable et presque méconnaissable, qui remplaça pratiquement au pied levé Jonah Hill, à qui le rôle était à la base destiné. Un magnifique coup du destin pour l'ancien pensionnaire du Saturday Night Live, puisque ce rôle lui a permis d'obtenir plusieurs récompenses dans différentes catégories. Très bien reçu par la critique et par le public, Uncut Gems est le cinquième film des frères Safdie, film qui arrive 2 ans après le très bon Good Time et qui assoit encore plus leur statut de réalisateur montant qui compte. Alors messieurs, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film? Et je vais commencer avec Alex.
Souvenir d'une scène ou
Non, comme non. L'ambiance dans laquelle t'as vu le film, comment tu l'as perçu, comment tu l'as aimé.
J'étais avec 3 meufs. j'ai un vague souvenir, je me souviens d'être happé par le film, vraiment, être aspiré. Il est assez long d'ailleurs, il dure plus de 2 heures, mais je crois que je m'arrête de respirer. Et non, c'est assez vague parce que je l'ai vu une fois et demie, mais pour moi, c'était le meilleur film de l'année 2019 ou 2020, 2019. Mm. Donc, c'est des scènes qui me restent et qui me sont restées, puisque je ne l'ai pas revue, mais la scène d'intro en Éthiopie, je crois, avec les Falachas et ce raccord merveilleux avec l'anus d'Adam Sandler, enfin avec, qui subit une sonde anale pour savoir s'il a un cancer ou pas. Et je m'étais rappelé, puisque du coup j'écris des scénarios et quand il y a de si bonnes idées, on n'a pas envie de les piquer, mais en tout cas on les retient. À la fin, si vous vous souvenez, quand Adam Sandler, spoiler, meurt, donc il a un trou dans la joue et la caméra pénètre dans. Enfin voilà, donc cette boucle était assez magnifique et voilà.
Mais c'est marrant que tu dises que le film t'a empêché comme ça de respirer, parce que il me semble que quand j'en avais parlé sur la chaîne, j'avais dit que c'est un film qui te prend par le col et qui te lâche pas pendant 2 heures, et c'est un peu le cas en fait avec Uncut Gems.
Ouf.
Et c'est ce que j'aime avec la réalisation des frères Safdie. Mais dis-toi, c'est quoi ton premier souvenir du film?
Moi j'essaie d'être un peu plus technique. Moi, c'est vraiment le coloris du film.
Faut savoir qu'il l'a vu pour la première fois hier soir. Ça aussi, c'est technique.
C'est un bon souvenir.
Mais il a aimé les couleurs, on dirait.
J'ai trouvé qu'il y avait un lien entre la, je sais pas, il y a un jeu de couleurs entre un aspect un peu bleu-violet pendant tout le long du film.
Qui rappelle les mots.
Ouais.
C'était technique, bravo.
Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce que je
viens de dire? T'as trouvé ça technique?
Qu'est-ce que vous en pensez de ce que je viens de dire?
C'est technique. Ah, c'est plutôt un avis de joyeux, quoi. Mais j'apprécie. J'aime les bijoux.
Aurélien, ton premier souvenir du film?
C'est pareil, je pense que je l'ai vu pour le coup sur Netflix, non? Parce que si je m'abuse, je suis pas sûr qu'il était sorti en salle, ce film, en France.
Non, Netflix.
Sauf que tu cites la plateforme, c'était à la radio, donc.
Ouais, voilà, je balance.
Mais je crois qu'à l'époque, il était sorti dans quelques salles aux États-Unis, ils font ça là-bas aux États-Unis, un peu quelques salles et Netflix.
Ah, ok. Et je me souviens, pareil que vous en vrai, hein, d'être complètement inspiré par le film. Je me souviens de l'avoir vu avec ma meuf et qu'elle, elle a pas kiffé du tout et qu'au bout de 10 minutes, tu sais, je pense que c'est ce genre de film où tu rentres tout de suite dedans et tu t'en sors plus, ou alors tu rentres pas dedans et c'est foutu après, genre, tu dégages quoi. Et il y a beaucoup de scènes que j'ai retenues. Pareil, des trucs très visuels, en effet, le trou c'était chambé. Les couleurs, mais moi je dirais plutôt le fait de, tu sais, tout scintille et tout brille, on dirait. Tu sais, genre, il y a beaucoup de trucs qui passent sur l'objectif, là. Moi, techniquement, je suis à chier, donc, mais tu sais, les trucs un peu à la J.J. Abrams, où on a l'impression qu'ils mettent carrément la caméra dans les lumières et tu vois des reflets, en fait. Ça, j'avais bien aimé. Beaucoup d'effets visuels. Puis Adam Sandler, quand même. Enfin, je pense que il est complètement dingue dans ce film. Vraiment, je l'avais jamais. Moi, déjà, Adam Sandler, j'ai un a priori positif. J'aime bien ce mec. De base, son spectacle, je crois qu'on en avait déjà parlé.
Sublime spectacle.
Je le trouve,
sur Netflix aussi,
je trouve mortel. Puis toute l'histoire, quand tu t'intéresses à Judas Pato, à tout ce qui s'est passé, enfin, sa carrière, en fait, pas uniquement d'acteur. C'est un mec que je trouve brillant, qui s'est enfermé des fois dans des trucs, mais que je trouve mortel. Et là, je trouve que c'est pile poil le rôle un peu grotesque, mais en même temps, hyper dramatique, qui lui convient parfaitement, en fait. Il y a les deux côtés, en fait. À la fois, il est drôle, et en même temps, il est hyper hardcore. Je trouve ça super dur à faire et à retranscrire, en fait, et je trouve que vraiment ils ont réussi à tout mettre dans le film, et à la fin j'étais juste en mode genre putain, c'était trop court presque. D'ailleurs, alors que c'est long.
D'ailleurs, déjà à l'époque il y avait des photos qui avaient filtré de tournage d'Adam Sandler qui était un peu grimé comme ça, ouais. Ça avait un peu surpris tout le monde, on se demandait, parce que finalement on n'a pas l'habitude de le voir dans des rôles
surtout avec son bouc, tu sais, tout le temps de soleil, on se disait mais qu'est-ce que c'est que ce truc, on dirait un ringot, t'sais, on pensait que c'était une blague, que c'était un truc pour le SNL et tout, et c'est vrai qu'il était métamorphosé, quoi.
Moi, ce qui m'a plu avec ce film, Uncut Gems, c'est que, et plus globalement, chez les frères Safdie, c'est ce style un peu électrique et énergique qu'ils donnent à leur mise en scène. Je l'avais déjà aperçu dans Good Time, le film d'avant avec Robert Pattinson. Et aussi, ce que j'aime avec leur cinéma, c'est qu'on sent qu'il y a une importance donnée aux gueules, aux vraies gueules de cinéma.
Ah, c'est vrai.
Dans le film, il y a un acteur qui s'appelle Bogosian, et Eric Bogosian, c'est un gars qu'on avait vu dans Harry dans tous ses états, ou même dans la série Succession. Ils l'ont un peu remis au goût du jour, d'ailleurs je crois que c'est pour ça qu'il a joué dans Succession après. Et eux, ils ont vraiment une... Tu vois, ils donnent une importance comme ça aux gueules. Il y a aussi John Amos qui joue dans le film. John Amos, c'est le père de... qui joue dans Un prince à New York, qui joue le voisin de Adam Sandler dans le film. Et pareil, c'est un gars qui a une gueule, et en fait, ils donnent comme ça une importance aux gueules, et finalement, ils poursuivent un peu ce qu'avait fait Tarantino, à savoir relancer des acteurs qui sont un peu sur le déclin, ou donner à des acteurs des rôles un peu à contre-emploi. Ouais. On sent que c'est un peu des héritiers de Tarantino à ce niveau-là.
Il y a des vrais gens aussi. Il y a des vrais joueurs de basket, Kevin Garnett, tu te dis qu'est-ce qu'il fout là. Et en plus, il joue vraiment, il y a The Weeknd qui joue son vrai rôle. Ce mélange un peu de fiction et de réalité, parce que là, c'est des personnages qui existent, tu te dis en fait, ça se trouve, le personnage d'Adam Sandler, il existe, tu vois, c'est un vrai mec, ils sont en train de faire un docu en fait là.
Ouais, puis tu vois, même de redonner une chance à Judd Hirsch qui joue dans un bout de course, qui joue le père dans un bout de course de Sidney Lumet, ils vont chercher un peu des acteurs comme ça qui marchaient bien avant et qu'on avait un peu perdu de vue, comme le faisait Tarantino. Donc je trouve que c'est un peu des héritiers de Tarantino et aussi de Jerry Schatzberg dans le style, parce que des films comme Panic at Needle Park ou encore L'Épouvantail, ça aurait pu être des films qui, je pense, auraient pu plaire aux frères Safdie.
Ouais.
Donc on sent qu'ils sont comme ça issus de pas mal de d'influences. J'avais lu récemment un passage d'un interview dans le livre New York Stories, qui est édité chez Capricci, où en gros, un type leur disait, c'est quoi, d'où vient votre amour du cinéma? Et ils disaient que quand ils étaient petits, leur père emmenait les frères comme ça dans un motel dans le Vermont, et que très souvent il neigeait, et que quand il neigeait beaucoup... Le père louait Misery et Shining, donc il regardait Misery et Shining dans le motel qui était encerclé de neige, et le père disait, franchement, s'il y a trop de neige, je sais pas comment ça peut virer, je peux vite péter les plombs en fait. Et ils avaient 10-11 ans les petits, et en gros, ils expliquaient que ça avait peut-être conditionné leur envie de faire du cinéma et d'être fasciné par le cinéma, quoi, peut-être. Donc,
Mais leur père, il avait l'air génial. Parce
qu'il y avait un troisième film, je crois qu'il y avait Ami Public avec Kev Adams.
La sélection. C'est vrai qu'on peut plus vite péter les plombs.
Ils ont pris Adam Sandler, pour le
coup. Plus vite péter les plombs, effectivement. Tout à l'heure, tu parlais d'une scène, enfin, de la scène d'intro. Alex, il y a une scène en plus comme ça qui vous a marqué dans le film, une scène qui retient votre attention et votre souvenir. Alex?
Une ou deux. Ouais. Une assez marrante et tragique. C'est à la fin de Pessard, quand il parle avec sa femme et qu'il essaye de la reconquérir parce qu'il vient de larguer et se faire larguer par sa meuf qui cherche un appart. Et donc il lui sort un sourire d'abruti, mais tellement misérable. Et il lui dit, tu me donnes une deuxième chance. Elle le regarde et elle éclate de rire parce qu'il a l'air vraiment idiot. Et elle lui dit, t'as l'air tellement idiot, quoi. Et lui, il garde son sourire, non mais vas-y, réfléchis et tout. Et elle lui dit, non mais j'ai plus envie de te voir de ma vie, quoi. Et il garde son sourire de chien battu. Et c'est savoureux parce que Adam Sandler joue vraiment trop bien ce genre de personnage. Et la deuxième, ben, j'ai déjà spoilé l'issue de ce film, mais alors, pour le coup, pour moi, c'est l'une des plus belles scènes de ces dernières années. Enfin, elle est magnifique, c'est la dernière scène du film quand il est dans sa bijouterie et que les deux gros bras russes sont dans le sas, que le match se joue et qu'il fait les allers-retours entre l'écran, le match de basket qui pourrait lui permettre, si ses paris sont bons, de gagner, je sais plus d'un million de dollars, quoi.
Ouais.
Régler ses dettes et ensuite se casser.
Ouais.
Et donc, il y devient comme un fou parce que t'as un pari qui marche de Paris, ça doit aller jusqu'à, je sais pas, 15, 20. Et les deux mecs dans le sas, où ils sont trois, du coup, les gros bras plus le membre de sa famille.
Ouais.
Et donc, il les libère et c'est bon. Enfin, il a gagné, il va pouvoir les rembourser, sauf qu'il se prend une balle direct. Et la scène est incroyable avec le jeu de miroir. Enfin, ça m'avait vraiment scotché, quoi, à l'époque.
Ah, j'avoue.
C'est la scène que t'avais marqué aussi, Mehdi, tu m'en parlais hier.
Ouais, avec la musique en plus qui...
Et les couleurs, j'imagine.
Et les couleurs aussi. Les couleurs aussi.
Mais c'est vrai que la musique, on n'en a pas parlé, c'est la musique de Onetrix Point Never qui bosse souvent avec les frères Safdie.
Ouais.
Donc en l'occurrence, Daniel Lopatin. Et c'est vrai que la musique colle bien avec l'ambiance du film. Et surtout, on en parlait tout à l'heure avec Mehdi, il y a des petits sons comme ça, des petits... Chling, comme ça, qui colle vraiment avec, tu vois, l'ambiance bijouterie, émeraude, etc.
On dirait un truc de science-fiction des fois même.
Ouais,
ça fait des grandes nappes et tout... Moi, c'est pas mal ces scènes-là où t'as l'impression que tu rentres dans la tête de Sandler. Moi, il y a une fois aussi, un peu dans le même genre, où tu vois son côté pathétique. Là, c'est quand il va au spectacle de sa fille, je crois, et qu'il se fait poursuivre, il essaie de se barrer vite fait, prendre la voiture, et au final, il se retrouve dans un coffre et tout, là. Waouh! En fait, moi, vraiment, la pression, je l'avais, tu sais, à un moment, je me suis dit, mais il va pas continuer à faire que des trucs débiles comme ça, c'est pas possible, tu sais. Il y avait une accumulation où tu te dis, non, mais à un moment, il va arrêter, c'est sûr, quoi.
C'est un peu la loi de Murphy, le cinéma des frères Safdie, c'est que vraiment, tout va de plus en plus mal à chaque fois.
C'est nul, vraiment.
Vraiment d'issue, quoi. Enfin, ça se reproduit. dans tous leurs films, hein, j'ai l'impression. Ouais.
Et une scène que j'ai bien aimée aussi, c'est là, on parlait de la scène d'ouverture, mais je me souviens, le premier truc qui m'a marqué quand j'avais vu la scène d'ouverture, c'était de me dire qu'elle était un peu Spielbergienne. Tu vois, tu sais, comme dans Indiana Jones, quand il y a cette scène où ils sont en train de creuser de loin, etc., machin, ouais, et je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu un hommage Spielbergien, cette scène. Alors, en quelques années, les frères Safdie sont devenus des réalisateurs qui se sont fait une place dans le paysage cinématographique américain. Mais du coup, c'est quoi leur histoire, Aurélien?
Eh bien, comme tu l'as dit, je pense que leur histoire de cinéma commence avec leur père, qui, les deux frères disaient que très rapidement, ils ont leur papa qui avait acheté une caméra, à l'époque je pense Super 8, quasiment à la naissance de Benny, qui est le plus vieux je crois des deux frères, et qui en fait les filmait très régulièrement et qui commençait déjà à donc documenter leur life, mais en même temps leur demander de jouer des parties un peu dans quand ils étaient petits, quoi. Donc ça rejoint un petit peu ce délire d'avoir une culture ciné, etc. De les pousser finalement à jouer et à réaliser et à produire leurs propres histoires, tu vois. Et donc ça, c'est assez marrant parce que ça, plus à mon avis, leur passion du basket et le fait que leur père, qui donc va se séparer de leur mère assez rapidement quand ils sont assez jeunes, est un personnage new-yorkais total. Ça veut dire que c'était un mec qui vendait dans une bijouterie, comme on voit un petit peu dans Uncut Gems, un mec qui traînait, qui avait un peu des petites arnaques, des petites bidouilles dans New York, quoi. Et à mon avis, tout ça mélangé a créé leur culture cinéma, qui à la base n'était pas forcément la première chose qu'ils voulaient faire. Ils ont fait tous les deux une école de communication à Boston, dans laquelle ils sont sortis il y a pas très longtemps, en fait, en 2006-2007. Et en même temps, à côté, ils faisaient des petits films, souvent de commandes, ce qui est assez marrant, en fait. Je trouve que c'est un peu ce qu'on se dit depuis le début, comme il y a dans leurs films, c'est que tout marche par enchaînement, en fait. C'est-à-dire qu'on leur propose des projets, qu'ils réalisent, qu'ils leur amènent d'autres projets, mais en fait, il n'y a rien qui est vraiment calculé, et ça passe de court-métrage à mini-documentaire, à publicité, enfin, clip musicaux, à long-métrage, dont les deux plus gros, donc Good Time, avec quand même Robert Pattinson et avec James très peu de temps après. Mais en fait, quand tu cherches un peu genre quel était leur but, quelle était leur vision, à part New York et les grands réalisateurs de New York, genre Scorsese, Lumet, comme on disait, le mec de Panic à Needle Park dont je me rappelle jamais.
Jerry Schatzberg.
Voilà, Jerry Schatzberg. Ou même Woody Allen, tu vois, ils ont ce truc de New York et le personnage principal de leur vie et de leur art un petit peu. Et donc, les mecs habitent à New York, ils ont grandi dans le Queens. Il y a toute quand même la gestion compliquée de leur jeunesse, un peu balbotée dans le divorce de leurs parents, entre leur père qui a l'air quand même bien foufou et la mère qui est un peu plus à la cool.
Ouais, d'ailleurs, j'avais lu une interview où il disait que, en gros, pour leur expliquer la vie, leur père disait, je vais pas vous expliquer la vie, tiens, je vous montre un film et puis vous devinerez quoi. Et pour le divorce, il avait montré Kramer contre Kramer. Sauf que Kramer contre Kramer, c'est du point de vue du père. Ouais. Donc eux, quand ils allaient chez le père, ils étaient là, genre c'est lui qui a raison. Et quand ils allaient chez la mère, c'est genre t'es pas sympa d'avoir lâché papa.
Le beau-père et tout machin. Alors qu'en vrai, bon, j'ai l'impression que les torts étaient plus partagés que ça. Mais c'est vrai qu'ils ont, à mon avis, un père qui était un peu, qui leur a montré plein de choses et qui leur a créé un petit peu leur univers, quoi. Après, moi, ce qui me passionne pas mal, c'est leur passion pour le basket, parce que c'est vrai que ils l'ont un petit peu mis dans tous leurs films. Ce truc-là, c'est des grands fans des Knicks. Josh, cette fille dira que qu'il a vraiment eu la plus grosse peine de son histoire quand les Knicks ont perdu avec John Starks et Patrick Ewing. Je sais plus très bien quelle année c'était, mais il avait 9 ans lui. Et il dit que genre ça lui a brisé le cœur en fait. Et depuis, ils essayent toujours d'aller voir tous les matchs des Knicks ensemble, soit à distance, soit dans le Madison Square Garden. Et ils ont gardé ce côté très électrique de, tu vois, comment filmer du sport, mais tu sais, du sport américain avec beaucoup d'enjeux, en fait. Et ça, je trouve qu'il y a ça dans Uncut Gems. Ce truc de, tu sais, ça s'arrête jamais, ce délire de filmer du money time. Et très souvent, les réalisateurs disent d'ailleurs que c'est le truc le plus compliqué à filmer. Friedkin, qui avait fait Blue Chips, dont on avait parlé ici, un truc sur le basket, il disait, en fait, arriver à retranscrire l'urgence et la panique qu'il peut y avoir dans du sport comme ça, avec un énorme enjeu, c'est quasiment impossible en cinéma. Enfin, en tout cas, Friedkin avait dit c'est le truc le plus dur que j'ai eu à faire, alors que ça devrait être juste un film d'action. Et donc, moi, le premier film qui m'a marqué d'eux, c'est un documentaire sur Lenny Cook, qui est un joueur de basket en fait, qui était exceptionnel à l'époque du lycée, qui était considéré comme le prochain Jordan à la fin des années 2000. Il a joué avec LeBron James à l'époque. On pensait même qu'il pouvait être drafté avec un meilleur niveau que LeBron James.
Jordan Bardella ou
Ouais, c'est ça, exactement. Non, c'était donc vraiment, Lenny Cook, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et en fait, c'est trop marrant parce que c'est pareil que ce que je disais. En fait, le projet l'aurait tombé
dire,
dans les mains.
Je tiens à dire que je viens de la ville de Drancy et les figures illustres qui viennent de Drancy, c'est Zemmour et Bardella.
Ah bah t'es bien toi.
Bah écoute,
c'est exceptionnel Drancy,
bah, écoute,
non.
Je viens de Drancy, comment qu'est-ce que je te dis.
Bah peut-être que les 7 filles vont faire un film sur Drancy, on sait pas ça. Et bref, Lenny Cook, c'est vraiment un personnage assez cool. Et en fait, tu vois, dans la façon dont ils ont de récupérer ce projet, c'est en fait un mec qui avait commencé à réaliser un documentaire sur lui en 2001, sur Lenny Cook, en pensant que ça allait être une méga star. Il avait plein d'images de lui, donc en 2001, jeune, etc. Et en fait, le mec est jamais drafté. Genre il va jamais à la draft, il va jamais à la NBA, il se retrouve à faire des trucs. Donc le mec lui dit bon, bah je finis pas mon documentaire. Lenny Cook disparaît, il se passe rien. Et en fait ce réalisateur dont j'ai oublié le nom tombe sur le premier film des frères Safdie.
Je fais la
faute à chaque fois, excusez-moi. Et il se dit bah en fait je vois que c'est des fans de basket, ils ont des vraies histoires personnelles à raconter. Je vais leur montrer mes rushs et je vais voir si ça les intéresse de reprendre le projet. Les frères regardent ça, ils adorent le concept, ils avaient déjà entendu parler du basketteur et ils décident de prendre la suite en fait. C'est-à-dire qu'ils utilisent les rushs qui avaient été tournés en 2001, qui sont pas les leurs, en mode documentaire et ils tournent la suite et ils recherchent Lenny Cook qui maintenant a complètement disparu du basket et ils réalisent en fait un film presque d'auteur, tu vois, qui est un truc documentaire avec un personnage qui pourrait être un personnage de fiction mais qui est en fait un truc sur leur premier amour qui est celui du basket et qui fait référence à un autre documentaire qui a été fait dans les années 90 qui s'appelle Hoop Dreams qui a eu énormément de récompenses. Qui est aussi un docu sur des jeunes basketteurs hyper talentueux qui au final vont pas réussir à gagner. Donc et ça en fait c'est ça qui leur a donné une bonne image de marque dans les festivals et qui leur a permis de faire leur première réalisation avec Robert Pattinson quand même, Good Time, qui leur donne une petite piste pour faire un clip avec un rappeur pas très connu qui s'appelle Jay-Z. À l'époque où il sort son album 444, qui est un album très attendu, parce que c'est le premier album de Jay-Z depuis presque 10 ans. Il a décidé de réaliser plusieurs clips qui sont des vraies histoires. Et en fait, Jay-Z avait bloqué sur la scène de l'hélicoptère qui poursuit les deux frères dans Good Time, donc Benny Safdie et Robert Pattinson. Et il dit « Je veux que vous composiez un truc un peu autour de ça ». Et en fait, ils font entièrement un clip vu du point de vue d'un hélicoptère, comme si c'était un hélicoptère de surveillance de flics. Et ça parle des inégalités, et avec la ville de New York en grande partie, et les inégalités raciales, etc. Et ce clip de Jay-Z va leur donner la force pour pouvoir récupérer Adam Sandler en rôle principal de leur film Uncut Gems. Donc, c'est ça qui est marrant, en fait, t'as l'impression que toute leur carrière pour l'instant est dessinée sur presque des accidents et des choix qu'ils font où très souvent ils récupèrent des bonnes idées qu'ils ont eues pour un court métrage, un long métrage ou bien un clip et qui vont les utiliser dans plusieurs façons et que ça va faire tilt chez des gens importants qui leur permettent comme ça de devenir hyper important avec toujours cette ville New York en toile de fond. Ce qui est passionnant, je trouve.
Très bien. En général, vous savez, quand j'organise un podcast, je demande à l'invité de me donner 5 films et après j'en choisis un. Et parmi les 5 films, tu avais aussi proposé Marie à tout prix, qui est apparemment une de tes comédies préférées. Et on avait parlé avec justement Babor il y a 2 semaines de Dumb and Dumber des Frères Farrelly. Du coup, j'ai préféré parler d'Uncut Gems. Mais Marie à tout prix, apparemment.
Bah ouais.
T'en raffoles.
J'en raffole, j'ai vu 100 fois, je crois, mon enfant. Et 2-3 fois depuis que. Je suis mature, mais avec une nouvelle lecture, j'avais oublié toutes les couches. Donc c'est une comédie romantique classique, mais en plus ils avaient déjà annoncé le phénomène des stalkers avec Matt Dillon qui étant détective privé et qui va tomber amoureux de Marie, le mec qui a des plaques d'urticaire,
qui fait des pieds.
Voilà,
stalker.
Enfin, voilà, il y a tout un tas de personnages dans le sillage de Ben Stiller qui, bon, lui est l'amoureux éternel de Marie. Et j'avais oublié à quel point il était complet Oui, et magnifiquement troussé. Quoi.
C'est marrant parce que là, tu parlais de Stalker, et en fait, hier soir, j'ai revu le film Her de Spike Jonze. Il y a une scène qui m'a marqué dans le film, donc ça se passe dans le futur, les relations amoureuses ont changé, ont évolué. Et le personnage de Joaquin Phoenix a un date, un dîner avec celui d'Olivia Wilde. Et en gros, il lui dit, je suis allé voir sur ton Insta ou quelque part, toute ta vie, donc je sais plein de trucs sur toi. Et à ça, elle répond, oh, c'est trop mignon, merci. C'est en fait, genre dans le futur, en fait, c'est devenu mignon de stalker parce que c'est devenu un truc qui est... Genre, c'est... Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, stalker, c'est devenu quelque chose de creepy ou de mignon? Ou de normal? Tiens, Alex, je te pose la question. Est-ce que c'est devenu quelque chose de creepy de stalker aujourd'hui?
Si c'est pour me connaître un peu mieux, bah, tu l'as fait d'ailleurs, hein, tu sais que je fais des chroniques radio. Tu t'appelles mon nom, espèce de pervers.
J'ai travaillé mon sujet, t'es là, journaliste que je ne suis pas.
Bah, vous êtes des stalkers, les journalistes. Pardon. Ouais, les
journalistes. Tu stalkes toi un peu midi ou pas?
Moi je l'ai vraiment fait effectivement pour Instagram, pour ton compte Instagram.
Tu sais, il a stalké ton compte Insta. Il a tout regardé.
Du début jusqu'à la fin.
T'as aimé les couleurs?
Ouais, j'ai aimé les couleurs.
Il a tout regardé parce qu'il m'a dit il a un maillot du PSG, tu vois.
Ah, tu vois, je t'ai pas menti.
Mmh. Bah, ouais, bah bravo. Et alors, t'as plus son compte Insta, Alex?
Bon, plutôt classique, hein. Y a pas de.
C'est pas de folie. Alors, dans ce film, une des choses plaisantes est de voir Adam Sandler dans un rôle à contre-emploi. D'ailleurs, c'est marrant parce que Pattinson aussi, c'est un peu une habitude chez les frères Safdie, parce que ouais. Pattinson était un peu à contre-emploi dans Good Time aussi.
C'est ouf.
Nous étions habitués à le voir dans des rôles comiques et souvent débiles, et dans Uncut Gems, il prouve peut-être pour la première fois de sa carrière qu'il est un grand acteur. Et c'est souvent ce qui se passe avec les rôles à contre-emploi, ils permettent à des interprètes de se révéler ou de s'affirmer sous une autre lumière. En France, par exemple, on cite souvent Coluche et sa prestation très sombre dans le film Ciao Pantin lorsqu'il s'agit d'aborder les acteurs dans un rôle à contre-emploi. Alors de mon côté, j'ai fait quelques recherches et je me suis dit pourquoi pas m'amuser à faire un petit classement des meilleurs rôles à contre-emploi de l'histoire du cinéma. Au passage, ça vous donnera peut-être envie de voir certains films que vous n'avez jamais vus. Du coup, je vais vous faire un petit classement des rôles à contre-emploi. Vous allez me dire si effectivement ça fonctionne ou si c'est pas mal. À la 10e place, restons sur un exemple français. Avec le film Le Juge et l'Assassin, film datant de 1976, réalisé par Bertrand Tavernier, dans lequel joue un Michel Galabru méconnaissable, qui interprète ici un tueur en série qui a réellement existé, Joseph Vacher. Une prestation qui permet à Michel Galabru d'obtenir le César du meilleur acteur en 77. Est-ce qu'on est friand de Michel Galabru par ici?
Ah ouais.
Ouais.
Bah, les gendarmes quand même.
C'est vrai. Alex, t'es friand de Galabru?
Je l'imite très bien.
Ah oui, je suis Michel Galabru. Non, je...
C'est vrai qu'il est mal. C'est bien, toi, Mehdi, Galabru, t'en raffoles?
Ah, j'aime beaucoup.
Ouais. Je me suis dit, Alex, je vais dire les couleurs de Galabru.
Trois fois, c'est le max.
À la 9e place, Ryan Gosling, qui, pour ceux qui l'ignoraient, a débuté avec Mickey, chez Mickey avec Justin Timberlake, Britney Spears ou encore Christina Aguilera, et qui, des années plus tard, pour son premier rôle principal au cinéma, a interprété un juif membre du parti nazi et leader du Ku Klux Klan dans les années 60. Ce film s'appelle Danny Balint et s'inspire encore une fois d'un personnage qui a réellement existé, Daniel Burroughs, un rôle qui a permis à Ryan Gosling de se détacher de son image lisse et de s'imposer comme un acteur à fort potentiel. Vous avez vu ce film, Danny Balint, ou pas?
Non.
Non.
Je savais pas que ça existait. Tu m'as fait peur avec la
description. Tu l'as vu, toi?
Ah oui, je l'ai vu. Oui.
Alors, t'as aimé?
Ouais, super.
Ouais, super, super film. Ouais. Est-ce qu'il paraît, je viens dedans, Gosling?
Tu l'as pas vu?
Non, j'ai pas vu, mais j'ai vu des extraits sur YouTube où c'est vrai qu'il est un peu glaçant, comme on dit. Mm. Hein, il est glaçant ou pas?
C'est un de ses premiers rôles, non?
Ouais, bah, je l'ai dit dans le truc juste.
D'accord, que j'avais pas vu. <pour moi. rire>
À la 8e place, un film que j'aime beaucoup, Copland, réalisé en 1997 par James Mangold et qui compte à son casting un Sylvester Stallone en bout de course, shérif à moitié sourd, un peu minable et utilisé par ses collègues. Un rôle à l'opposé de ce qu'il avait l'habitude de jouer, c'est-à-dire le gros dur dans des énormes blockbusters. Un rôle pour lequel Stallone accepta de prendre 20 kilos, lui qui avait toujours eu l'habitude de soigner sa ligne pour ses films. Et c'est vrai que pour ceux qui l'ont vu, Copland, Stallone est vraiment bon dedans. Hein, Aurélien?
Ouais, c'est vrai.
Tu l'as vu toi, Alex?
Non, Copland? Pas vu. Non.
Ça te donne envie de le voir ou pas?
Les 20 kilos en plus,
de, ouais. De Stallone, ouais. Ça te tente, hein, mais pourquoi pas. À la 7e place, deux films, Insomnia de Christopher Nolan et Photo Obsession de Marc Romanek, ouais. Puisque dans ces deux films, on trouve un Robin Williams, pas drôle du tout, qui joue à chaque fois un énorme psychopathe. Christopher Nolan expliquera d'ailleurs qu'il ne faisait aucun doute que Robin Williams pouvait jouer ce genre de rôle, puisqu'il avait déjà prouvé dans Le Cercle des Poètes Disparus ou encore dans Will Hunting qu'il pouvait jouer des rôles dramatiques. Mmh. Et c'est vrai qu'on pense souvent à Robin Williams pour des rôles comiques. Et au final, dans sa carrière, bah, il a excellé dans plein de rôles dramatiques.
Photo Obsession, c'est flippant.
Même dans la vraie vie, quoi. C'est un sacré drogué.
Oui, c'est
donc...
vrai. T'as pas tout à fait tort.
Et c'est dramatique.
Sixième place maintenant. Foxcatcher de Bennett Miller, film dans lequel on trouve un Steve Carell méconnaissable encore, inquiétant et grimé, qui joue le personnage de John Dupont, homme qui, encore une fois, a réellement existé et qui était l'entraîneur du lutteur et champion olympique Mark Schultz. Un film qui a permis à Steve Carell de changer définitivement de dimension. Je me dis que vous l'avez vu, Foxcatcher, autour de la table?
Dupont, ouais, il m'a fait flipper aussi.
Tu l'as vu, toi, Foxcatcher?
Ouais, j'ai cool, adoré. Bah, après, j'adore Steve Carell et Shining Tatum, mais ouais, glaçant, ouais, super.
On l'a vu pas trop en plus.
Non, j'ai pas vu.
Vraiment bon.
Ils lui ont fait une tête, on dirait, il a mis sa tête dans le micro-ondes, c'était trop bizarre.
Mais tu sais, moi, quand j'ai vu les premières images, je savais pas que c'était Steve Carell qui jouait dedans, et je savais pas que c'était lui, en fait. J'avais pas dit.
On le reconnaît pas, je sais pas, ils lui ont fait, tu sais, des sortes de trucs tombants, enfin, pour que ça ressemble plus au personnage, mais.
Non, je crois qu'il y a un docu sur Netflix de la vraie histoire, je crois, que j'ai pas vu, mais c'est pareil qui est cool. À la cinquième place, on arrive au milieu, Charlize Theron, qui en 2003 interprète dans le film Monster de Patty Jenkins, la tueuse en série Eileen Vernos, qui entre 89 et 90 a tué 6 hommes alors qu'elle se prostituait. Une Charlize Theron méconnaissable physiquement qui, grâce à ce film, a remporté l'Oscar de la meilleure actrice en 2004. Pareil, j'imagine que Monster, vous avez vu ça?
Ouais. Non? J'ai oublié, pas sûr.
Moi, j'ai jamais vu Monster.
Moi, j'ai vu.
Ouais, c'est bon?
Ouais. C'est sale.
C'est sale, apparemment.
C'est méga sale.
Très bien, écoute, ça me tente. Quatrième place, La Nuit du Chasseur, en 1955, de Charlton, immense classique du cinéma américain qui a permis aux spectateurs de découvrir un Robert Mitchum complètement différent, qui joue là un tueur en série misogyne. Et j'ai noté quelque chose d'assez intéressant à propos de ce rôle, c'est que Gary Cooper et Laurence Olivier n'étaient pas très chauds à l'idée d'interpréter ce personnage, par peur que ça se répercute sur leur carrière. Et au final, Laurence Olivier a eu son rôle à contre-emploi des années plus tard, en accident de jouer un ancien nazi terrifiant dans Marathon Man de John Schlesinger. Mmh. Et c'est vrai qu'il est vraiment terrifiant dans ce film, Laurence Olivier. C'est la fameuse scène, vous avez vu Marathon Man ou pas? C'est la fameuse scène où il joue un ancien dentiste, enfin un mec qui est spécialisé dans les tortures de dents. Je sais pas si ça existe, les tortures de dents. Et en gros, il torture le personnage principal en lui enlevant ses dents.
C'est vrai.
Et la scène est terrible. Et enfin, à troisième place, pour compléter le podium, un film français encore avec Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville.
Ah.
Film dans lequel on peut observer un Bourvil à contre-courant de ce qu'il a eu l'habitude de faire dans sa carrière, puisqu'il joue ici un commissaire pas vraiment comique. Seul film pour lequel il est crédité André Bourvil, et non seulement Bourvil. Et film qui fut très compliqué à tourner, puisqu'il était, durant le tournage, atteint d'un cancer en phase terminale, lui qui l'a caché à toute l'équipe, et qui en cachette s'injectait des piqûres de morphine pour tenir le rythme durant le tournage. Il a d'ailleurs tenu à jouer toutes les scènes qui étaient physiquement éprouvantes. Bourvil qui décéda le 23 septembre 1970, un mois avant la sortie du film. C'est le moment un peu badant du podcast. Je sens que là, il y a une échappe de plomb.
Ouais, grand film.
À noter que Jean-Pierre Melville aimait employer des acteurs à contre-emploi, puisqu'on se souvient du film Léon Morin Prêtre, dans lequel Jean-Paul Belmondo incarne un prêtre, pardon, bien loin du Belmondo boxeur et avec de la gouaille qui s'était imposé tel quel au début de sa carrière. Deuxième place, Eternal Sunshine, bien sûr, peut-être le plus beau rôle d'un Jim Carrey, que beaucoup ont découvert en 2004 pour une fois sans grimace. Et des années plus tard, je comprends toujours pas comment Jim Carrey a pu ne pas être, ne serait-ce que nommé aux Oscars pour ses prestations. Bizarre, ça méritait ou pas?
Bah oui, mais de toute façon, il a jamais rien eu, non?
Non. Alex, ça méritait ou pas?
C'était mérité, ouais.
C'était mérité, mais
surtout avec Gondry, super la série d'ailleurs qu'ils ont faite ensemble, des
ouais,
passifs aussi.
Hein,
un killing,
ouais.
Incroyable.
Ouais. Flippant. Ouais. Moi, je mets un épisode et après je fais bon, pff, on va regarder un petit truc, je sais pas, il y a un petit Disney là.
Mais je trouve que ça fonctionne bien le duo Gondry-Carré.
Ils sont dépressés tous les deux, je pense.
Ouais, aussi. Ouais. Et enfin, à la première place, peut-être le plus grand rôle à contre-emploi de l'histoire du cinéma, celui de Henri Fonda dans Il était une fois dans l'Ouest, film dans lequel il prête ses traits à un tueur sans scrupules, contre-emploi, car Henri Fonda a toujours été une figure américaine réconfortante, avec ses profonds yeux bleus et ses rôles de héros de la nation. Et ce qui est drôle, c'est que Henri Fonda, le premier jour du tournage, arriva sur le plateau grimé en méchant. Donc c'était une proposition qu'il faisait, avec une imposante moustache, des gros favoris et des lentilles marron pour cacher ses yeux bleus. Une proposition qui ne fit pas plaisir à Sergio Leone, qui exigea qu'il vire tout. Pour lui, il fallait que le public voie le Henri Fonda qu'on a l'habitude de voir, afin qu'il soit dérouté et choqué de le voir aussi méchant. Pour lui, c'est ce qui allait fonctionner dans ce film. Et c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas vu Il était une fois dans l'Ouest, grand classique, Henri Fonda, il est vraiment, vraiment dur dans ce film.
Avec ses petites lunettes, là.
Ouais. Là où il a jamais joué des rôles de sadique. Ouais.
Ouais.
Voilà pour cette sélection de 10 rôles à contre-emploi. Est-ce que vous, comme ça, il y a des rôles qui vous ont marqué à contre-emploi ou des rôles que vous retenez comme ça, Aurélien? T'as des rôles comme ça en tête? Parce que, en fait, tout à l'heure, je mentionnais Stallone dans Copland, mais un acteur comme Schwarzy, c'est un gars qui vient de films comme Terminator, Predator, et en fait, au contraire de Stallone, il a réussi à avoir une carrière dans des films comiques, souvent avec Redman, quand il joue dans des films comme Jumeaux, comme Junior, etc.
Avec
donc finalement,
et tout,
on peut dire que c'est des rôles à contre-emploi, même s'il en a fait beaucoup. Mais on s'attendait pas à avoir un Schwarzy dans des rôles comiques et ça marche. Là où, par exemple, Stallone dans Arrête ou meilleur va tirer n'a pas réussi à prendre le pas un peu comique dans sa carrière.
Bah, t'as du Bruce Willis sur Wes Anderson, mais t'as surtout, t'as surtout, notre ami Adam Sandler, qui, moi, m'avait épaté dans Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson.
Ouais, parce que c'est vrai que tout à l'heure, je dis,
Spanglish aussi.
C'est vrai que je mentionne, Adam Sandler dans ce film, et c'est vrai que déjà dans Punch Drunk Love, il était bon, déjà. Contre-emploi. Exact. Et c'est vrai que Bruce Willis le fait souvent. Mais d'ailleurs, c'est assez drôle parce que Bruce Willis, on l'identifie à un acteur, qui joue dans des films d'action un peu durs, etc. Mais finalement, il vient d'une série qui s'appelle Moonlighting, dans laquelle il avait un rôle comique et de fanfaron un petit peu.
Ouais.
Et du coup, le contre-emploi, au début, c'était de le faire jouer dans Die Hard.
Ouais, parce que personne n'y croyait en plus.
Parce que personne n'y croyait, personne ne voulait. Mmh. Et finalement, après, comme tu dis, Alex, quand il joue dans des films de Wes Anderson, bah là, c'est aussi un contre-emploi. Mmh. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est un des rares acteurs qui a eu plein de rôles à contre-emploi, Bruce Willis. Très bien vu, Alex Magie. Bravo pour cette.
Tu cherches un chroniqueur parce que Mehdi s'endort.
Non, non, je réfléchissais en fait à.
Oui,
étonnant. Moi, j'ai Gérard Jugnot dans Une époque formidable. Je sais pas si c'est vraiment
un rôle à contre-emploi, c'est vrai, je sais pas.
Bah, c'est vrai qu'il est pas rigolo. Mais après, c'est vrai que la deuxième partie de carrière de Gérard Jugnot, ça fait plus rigoler. Mm. Genre, les choristes, tout ça, là.
Ouais, ça, c'est
non, mais Jugnot, il est à contre-emploi dans le film de Patrice Lecomte avec Jean Rochefort, qui s'appelle. Où ils font un road trip en voiture. Où Jean Rochefort joue un présentateur télé.
J'ai pas vu ça, moi.
Vous m'aidez vraiment pas.
Mais je l'ai pas vu, celui-là.
J'ai plus le titre.
Un taxi pour deux?
Non, non, mais putain, merde, j'ai pas le titre. Désolé.
Avec, dans la grande maison de campagne avec la fille malade.
Je sais plus, je l'ai vu quand j'étais ado, je m'en souviens plus. Ouais, je sais que c'est Jean Rochefort qui est un présentateur télé et en gros, ils sont sur la route avec Jugnot. Tandem, voilà.
Ah, Tandem, bien sûr.
Voilà, j'ai retrouvé In Extremis le titre.
Pas de chanson.
Mehdi s'endort, effectivement, mais Mehdi a une chronique. Hein?
Mehdi a une chronique, ouais.
Il est là, il a une chronique. Alors, comme je disais en début de podcast, tu nous as préparé quelque chose. Et effectivement, t'en parlais tout à l'heure, Aurélien. Les frères Safdie sont identifiés un peu à la ville de New York et vice versa.
Complètement.
Ils sont vraiment à fond dans l'ambiance new-yorkaise. Et parfois, il y a des films comme ça. Alors, beaucoup de réalisateurs ont fait de New York leur ville, comme Woody Allen, t'en parlais tout à l'heure, Jerry Schatzberg, etc., etc.
Scorsese.
Et Scorsese, effectivement. Et il y a des films comme ça qui sont identifiés à une ville. Et apparemment, tu nous as préparé un petit jeu.
Oui.
Le petit jeu, ça va être de nous donner des films. Et le premier qui trouve la ville dans laquelle se tourne le film. Et apparemment, ça va être un mano à mano entre Alex et Aurélien.
Ah bon?
Parce que moi je connais les réponses.
Ah merde, voilà.
D'accord. J'ai eu vent des réponses. Du coup ça va être un mano à mano.
Oh là.
Est-ce que t'es joueur un peu Alex?
Non non, je suis très nul.
T'es très nul, okay.
Non, j'ai fait un truc très lent aussi. Là faudra aller vite, hein.
Ouais bah
quoi?
C'est français, c'est américain, c'est comment?
Donc en fait il va vous donner des titres de films. C'est le premier qui sort la ville. C'est vraiment un 1-1 entre vous deux.
Ok ok.
Taxi.
Marseille.
Driver.
Oh là, bah c'est 1-0. C'est 1-0 tout de suite.
Il a pas compris le jeu. Driver.
Driver. Il faut donner la ville. Il faut donner le mano à mano.
Qui vient à la tête, moi.
Le mano à mano va être terrible. 1-0 pour Alex.
1-0.
Et t'as toujours un peu d'avance, moi.
Et t'as une petite info sur le film, apparemment.
Oui, Driver,
ouais.
Alors, faut savoir que Luc Besson, au moment où il était en train de négocier avec Columbia Pictures, pour écrire justement, pour réaliser le Scam Element. Ouais. Il devait avoir un délai de réponse de 30 jours. Pendant ces 30 jours, il a écrit Taxi.
30
jours, c'est beaucoup.
Il a écrit les 5, non?
Et le 6 qui n'est pas encore sorti aussi, je crois.
Et donc, 30 jours Taxi. Hein. On rappelle Besson qui ne réalise pas, c'est Gérard Pires qui réalise le premier Taxi.
Fait. Exactement.
Producteur.
Marseille, qui est une ville formidable. T'es déjà parti sur Marseille?
Non, je croyais que t'allais dire Marseille, ouais. Marseille, et que t'allais finir autrement.
Moi, Marseille, j'ai des comme souvenirs, c'est les dernières vacances que j'ai passées avec mon ex.
Ouais.
Avant qu'on ne sait pas. Bon, j'ai pas un super souvenir. De toute façon, on faisait pas l'amour depuis à peu près plus d'un an. Alors j'étais encore chaud. Et donc, toi, t'as des souvenirs de Marseille?
Lié à Marseille?
Ouais.
Souvenir très personnel, Mehdi.
C'est mon souvenir, moi je suis sans tabou ici.
Non,
je suis sans tabou.
Mais Alex,
j'ai vu beaucoup de poubelles.
Il est plus réservé,
là,
ouais.
Non, Alex, c'est un vrai supporter parisien.
Oui, donc je m'interdis de parler d'ennemi.
Non, mais t'es jamais parti à Marseille.
Si, j'ai déjà passé quelques jours. Ville horrible. J'adore.
Mehdi, deuxième film. Attention, ça va aller très vite.
Lost in Translation.
Japon, Tokyo.
Ouais, oh là, ça fait 2-0. Bah, mais qu'est-ce qui se passe, Aurélien? Qu'est-ce qui se passe?
Je suis perdu, j'avais
pas. Il est complètement perdu, hein. Il a pas compris le jeu encore, je crois. Ouais. Ça veut dire la ville.
Lost, la série, c'est ça. Il avait déjà dit la fin.
Lost in Translation. Et merde.
Mehdi, t'as des petites infos t'as une petite info sur Lost in Translation?
Sofia Coppola qui aurait refusé de réaliser ce film si Bill Murray n'avait pas dit oui.
C'est une bonne info.
Elle voulait que lui.
Attends, il n'y avait pas de film, sinon.
Et d'ailleurs, pour compléter ton info, Bill Murray, il a, alors je l'avais déjà dit, mais il a pas d'agent, il a un répondeur sur lequel on peut l'appeler, puis en gros, on donne ses pitches de films, et puis il te rappelle ou il te rappelle pas. Et en gros, il avait pas rappelé Coppola pour Lost in Translation, mais elle avait eu Spike Jonze au téléphone, son pote, et Spike Jonze, je lui avais dit, bah attends, j'ai eu Murray au téléphone, c'est bon, il est ok pour faire ton film, t'inquiète pas, il va venir. Eux, ils vont à Tokyo pour faire le film, et en gros, à un jour du tournage, il est toujours pas là, quoi. et il y a toute une production qui est engagée, il y a de la thune qui est engagée, etc. C'est la panique. Et en fait, il s'est ramené le soir, la veille, en disant, bah, t'as vu, je t'avais dit que je viendrais, etc. Et puis, ils ont pu faire le film, quoi. Donc,
incroyable.
La pression.
Quelle liberté.
T'as eu ce genre de truc avec Teddy, encore une fois, ou ce genre de caprice pour ton film?
Non. Franchement, non.
Il n'y a pas eu de caprice.
Facile. Il a accepté de se faire teindre les cheveux en bleu, de se mettre un piercing dans
ouais, d'ailleurs, il a un bon style dans le film, Teddy.
Bah, mieux qu'en vrai.
Un peu beau gosse. Bah, tu l'as rendu un peu beau gosse.
Il est reparti avec les fringues.
Ouais. Bah oui, pas mal. Bravo, Teddy.
Il est reparti avec les fringues.
Tu es déjà parti à Tokyo?
Jamais. Non.
Jamais.
Mais je suis déjà allé rue Sainte-Anne à Paris. C'est pareil. Troisième Bill Murray là-bas.
Mehdi, troisième film. Ça fait 2-0 pour Alex, il faudrait peut-être se réveiller.
Ouais, j'ai pas compris le jeu, je crois.
Faut dire la ville dans laquelle se tourne le film. Enfin, l'intrigue. Ah, d'accord, c'est bon, il se lance.
Before Sunrise.
Pardon?
Quoi, je comprends
Before
rien.
Sunrise.
Ah, Paris?
Non.
Non.
Ah merde, c'est lequel celui-là?
C'est Before Sunset.
Non. New York.
Ah, ça galère un petit peu. Hein.
Non.
Miami.
Dans Before Sunrise, dans le premier, il se rencontre dans
Venise.
Une ville. Non, presque.
Non, Milan.
Bon, il fait toutes les villes.
Oh putain, c'est Rome.
Bon, il fait toutes les. J'ai envie de lui donner le point parce qu'il a fait vraiment toute la carte
Séville,
géographique.
Séville.
Non, c'est.
Si vous trouvez pas, il y a pas d'anecdote.
Naples.
Sur...
C'est Vienne.
Oh, ça va.
C'est Vienne.
Qui
en
va à Vienne, ça a pas de sens.
Bah, c'est Vienne en Autriche dans Before Sunrise, Richard Linklater.
J'étais sur Vienne en France, j'aurais dû le dire.
Une petite info sur le film, Mehdi.
Oui, j'ai eu Delpy et Ethan Hawke hein, qui marchaient beaucoup à l'impro au niveau des dialogues. Ce qui n'a pas plu au final à Jude Delpy qui n'était pas du coup. Ravi d'être crédité en tant que auteur.
Non, enfin, elle n'était pas créditée en tant qu'auteur. C'est ça qui la vénère. Elle était vénère d'ailleurs.
Non, elle n'était pas ravie.
Ouais, c'est pas pareil.
C'est pas pareil.
Ouais, non, tu étais très pointilleux là-dessus, toi.
Bah, je connais très bien Jules Delpy, donc je l'ai appelé effectivement pour savoir
c'était. C'est technique, hein.
Ouais, il est technique, hein. Il est technique.
Je suis très technique.
Il était très technique dans les infos, ouais, très bien. Ok, donc ça fait 2-0, toujours pour Alex.
Alex, c'est
pas vrai. Là, j'arrive pas à Vienne.
T'es pas parti à Vienne, c'est sûr.
Je préfère à Marseille.
Mehdi, quatrième.
Will Hunting.
Oh. Ah, Boston.
Oh, joli. Oh, il revient dans la danse. Il revient dans la danse. C'est un point pour Aurélien. Ça
parce
fait
que,
2-1.
C'est les deux, là. Matt Damon.
Non, je crois viennent de Boston, Flex, en vrai, les deux.
Ils viennent de Boston et c'est eux qui ont écrit le
exactement.
Le film.
Et bah, tiens, il a justement une info là-dessus. Bonne transition.
Et est-ce que tu avais l'info
de
qu'au démarrage du tournage, quand Robin Williams a commencé à jouer, ils se sont mis à pleurer?
Ah ouais?
Bah ouais.
Ah ouais.
Hey, ils sont cons ceux-là. Non, je savais pas.
Mais pourquoi ils ont pleuré, Mehdi?
Parce qu'ils ont quand même écrit ce film pendant. Enfin, ils ont mis 5 ans à l'écrire.
Ouais, c'est leur premier film.
Donc,
vraiment ensemble,
très, ils ont été très émus. Enfin, pas comme toi, t'as pas été ému quand. Du coup, il y a eu le démarrage.
De mon film. L'écriture de Taxi.
Et quand t'as vu Babord interpréter ton texte, t'as pas pleuré? Non.
Je l'ai supprimé de tous les réseaux.
2-1 pour Alex, attention, il y a Aurélien qui revient. Il en reste 2 ou 3, je crois.
Mais tu es déjà parti à Boston?
Non plus.
Bon, d'accord.
Mehdi veut savoir où t'es allé
ouais,
partout en vacances.
C'est un stalker. Hein.
C'est ça qu'il a tout stalké, attention.
Surtout qu'il a déjà les infos, il attend l'Insta. Il sait si tu es allé à Boston ou pas.
Ok, prochain Mehdi, attention.
Midnight Express.
Ah, c'est
Istanbul.
Turquie.
Oh, c'est là-bas, c'est Istanbul.
Non, c'est Istanbul, c'est
Istanbul. Il met le 3-1.
C'est pas assez technique, pardon.
Il met le 3-1, il fait le trou, c'est Istanbul, effectivement. Petite info sur Midnight Express.
Il fait le trou, bon.
T'as répondu Midnight Special, toi, ou pas?
Non, j'ai dit Turquie, j'ai dit ah, Turquie. J'allais dire implant, tu vois, j'étais vraiment très loin dans le.
Tiens, pour ou contre les implants? Tiens, je lance un sujet comme ça, c'est pas.
On l'a déjà.
C'est une émission
à chaque fois que je viens, on parle de ça.
Ah
des
oui, c'est
implants,
vrai, écoute. Non, parce que là, alors pour ceux qui ne connaissent pas le, pour ceux qui ne connaissent pas le visage d'Alex Magy, il est très bien fourni en cheveux, je dois le dire. Il est. Non, t'es ravi de ça ou pas?
Oui, bah écoute, mon médecin fait du bon boulot, quoi. Non, mais c'est vrai. Il... Akane Choucourt.
C'est une blague qu'avait fait Mehdi la dernière fois. Mehdi, il avait remercié Akane Choucourt, tu vois.
Est-ce que c'est une angoisse pour toi de peut-être les perdre un jour?
Non, je crois que ça va.
Ah, il est serein, il est même limite insolent. Ouais, il est limite insolent un petit peu, je trouve.
J'ai des gouttes au cas où.
Personnellement, j'en ai chialé, moi. Mais...
Tu lui as pas demandé si t'es allé à Istanbul, par contre.
Alors, justement, sur son compte Instagram, j'ai vu qu'il partait très souvent à Istanbul, donc du coup, t'as forcément des infos.
Non, jamais.
Mehdi, qui, pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'a plus de cheveux. C'est un vrai caillou. Est-ce que c'est en lien avec le fait que ta meuf baisait plus, que t'en parlais tout à l'heure à Marseille?
Il y a un lien, oui.
Il y a un lien
du stress, j'ai tout perdu à ce moment-là.
Oui, d'accord. Mais...
Est-ce que c'est en lien avec la pierre de Uncut Gems?
Avec la masturbation. Non. C'est autre chose.
T'avais prévenu, pourtant.
Il en reste combien, Midi?
J'ai pas dit, moi, ma petite anecdote.
Ah oui, c'est vrai. Bah, on l'a vu tous, sa petite anecdote sur le film.
Film qui est sorti en 78 et qui a été interdit en Turquie jusqu'en 92.
Ah oui, mais pour quelle raison alors?
Tu l'as vu le film?
Pour quelle raison,
Midi? Pour quelle raison?
Oui, on se demande.
Je te laisse répondre.
Bah, je sais pas.
T'as pas l'info?
Aurélien, t'as l'info ou pas?
Bah, je crois que le système carcéral est quand même assez mal vu dans.
Pas du tout.
Dans ce film.
Okay, merci. Pas du tout. Je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport.
Turquie.
Avec... Ok, il en reste combien, Midi?
Il en reste deux.
Il y a 3-1, tu peux égaliser, Aurélien. C'est les arrêts de jeu, là. On joue les arrêts de jeu au Parc des Princes.
Non, mais c'est pas les pays, on dit les villes. Parce que moi, j'avais le pays, par contre.
Oui, non, mais c'est la ville.
Okay,
c'est la ville, c'est la ville. Prochain, Midi.
Match point.
La France miniature.
Bah, New York. Non, c'est Londres, Londres.
Non, ah, c'est Londres, il revient à 3-2. Il revient à 3-2 avec Match Point, c'est Londres, effectivement.
Je dis Woody, enfin,
bravo,
Woody Allen,
mais tu vois, t'as voulu faire une vanne sur la France miniature, t'étais perdu et pourtant t'as un bel avantage. Mais dis une petite info sur Match Point.
Oui, alors Woody Allen qui a pour habitude de faire un film par an.
C'est vrai, ça.
Et son meilleur, c'est.
Eh ben, on se demande.
Bah, c'est Matchpoint.
Eh ben, c'est Matchpoint.
Ah bon?
Incroyable info, Mehdi. Hein.
Londres.
Incroyable.
J'aime bien Bananas, tu vois.
Londres.
Eh, il préfère Bananas.
Londres. Londres.
Non, t'es parti Alex. À Londres, Alex, ou pas?
Alex, Londres. Là,
je ne répondrai pas à cette question.
Non plus.
L'appel. L'appel.
ça fait donc 3-2.
C'est
écoute,
sur Insta.
Écoute, si t'égalises, c'est la folie dans les arrêts de jeu, Aurélien. Pour le
parce
prochain.
Là, je perds toujours, là.
Là, il y a 3-2, mais tu peux égaliser dans les arrêts de jeu, là. Il en reste une.
Tu l'auras, celui-là.
Remarquez,
il y a un corner. Il y a un corner, c'est la dernière minute, là.
Je donne quand même des villes.
Mehdi.
La cité de Dieu.
Rio.
C'est Rio, c'est 4-2.
Non, c'est Apollo.
Non, c'est Rio de Janeiro. C'est Rio. Ouais, c'est Rio de Janeiro. Bah, là, il demande la VAR complètement, là, mais c'est Rio de Janeiro. Bravo, Alex. C'est une victoire 4-2.
Vous voyez pas, mais je fais un dab. Non, je rigole, je ne fais pas de dab.
Et il fait pas de dab, hein. Je crois que j'ai jamais fait de dab de ma vie.
Je Brésil. Je suis pas
qui a déjà fait un dab ici? T'en as déjà fait?
Mehdi, je pense.
Mehdi, t'as jamais fait de dab?
Non.
Non? T'es pas tenté d'en faire un, là?
Non.
Aurélien, t'as jamais fait un dab?
T'as pas dabé?
Ah, j'ai dabé, j'ai fort. J'ai souvent dabé.
T'as souvent dabé, toi?
Dans le bon timing.
Et donc, pas de dab chez Alex, alors? Jamais.
Non, non, je me retiens.
On est beaucoup à ne pas avoir dabé autour de cette table. Bravo.
Non, le dab est sympa, mais sur une période très courte.
Oui, oui.
Je ne pose même pas ma question, Rio de Janeiro, c'est non. C'est clair, c'est net.
Donc ça fait 4-2, mais t'as pas une petite info sur la cité de Dieu, toi?
Oui, si,
ben
bien
oui,
sûr.
Bah alors,
bien sûr. Si,
tu nous avais habitués à des bonnes infos à la fin, à chaque
vous
fois.
Vous connaissez bien sûr les deux acteurs. Alexandre Rodriguez et Leandro Fermino.
Ouais.
Ouais, qui à l'époque du film, on leur a proposé deux cachets.
Alors ils venaient des favelas, faut le dire.
Ils venaient des favelas.
Ouais. Ouais.
C'était pas des vrais acteurs.
Ils avaient choisi entre $3,000 ou un pourcentage sur le box office. Ils ont choisi $3,000. Ils
bah,
sont passés
bien.
À côté de 200 000 euros.
Ah.
C'est une info un peu triste.
C'est pas
hein.
Énorme non plus.
C'est un peu triste ton info quand même. Mais
ouais, j'avoue.
Tu nous fais rire là-dessus, mais
et personne
peu...
leur a dit tiens, je te file un point quand même sur le film parce que
rien.
C'est toi le film. Ok, d'accord.
Rien du tout.
Rien du tout.
Sympa.
T'as pas demandé à Aurélien s'il était allé dans toutes ces villes, toi. Tu t'es concentré sur Alex, mais t'as pas voulu savoir où part en vacances Aurélien.
Je sais qu'Aurélien voyage beaucoup. Et je ne voulais pas. Faites pas Alex.
C'est une question d'empreinte carbone, hein, pas d'argent. J'ai les moyens.
Tiens, en parlant d'empreinte carbone, j'ai l'impression qu'on voit Marco Mouli partout en ce moment. Qui a vu le documentaire sur Netflix?
Moi.
Oui. Ouais, alors vous avez apprécié?
Oui.
Ça t'a plu, Alex?
Ouais, j'ai même fait une chanson qui n'est pas sortie.
Ah ouais, tiens.
Là, ça commence à être un peu trop mainstream, quoi.
Ouais, ça devient un peu Squid Game, c'est ça?
Ouais.
Mais non, mais en fait, Marco Mouli, on le voit partout. Tout à l'heure, on a vu un interview. Bah tiens, justement, Aurélien qui bosse chez Combini.
Oui.
Il a fait un interview Combini, j'imagine que t'es au courant.
Tout à fait.
Bon, on le voit partout, Marco Mouli.
Bien sûr, bah c'est un personnage truculent, j'ai envie de dire.
Ouais.
Non,
on oublie d'avoir un avis sur lui ou
on oublie. Bah non, mais t'as un avis sur Marco Mouli ou quoi?
J'ai pas envie d'avoir un avis sur lui.
Ouais, il a pas envie, personne n'a envie d'avoir un avis.
Ah ouais, une sale vibe en fait.
C'est un peu nos impôts qui
le voient.
Il balance un pavé dans la mare.
C'est notre argent, les mecs.
Alex, hors antenne, tout à l'heure, tu m'as dit texto. Moi, je viens pour entendre des anecdotes croustillantes, donc si on n'a pas dans ton émission, je pète un câble. Tu confirmes?
J'ai dit ça, ouais.
C'est ce que t'as dit, en ouais. Tête, effectivement. Mais écoute, ça tombe bien parce que j'en ai plein sur Uncut Gems.
Et donc j'ai aussi dit, t'es sûr que c'est Uncut Gems? Je t'avais dit que c'était Gems et la pêche géante.
Ça n'a pas été retenu, ça.
Tu m'as aussi dit, alors quand même, c'est assez drôle, faut le dire, parce qu'on s'est donné rendez-vous à 18h, aujourd'hui pour faire le podcast. Et du coup, on est arrivé un peu en retard avec Mehdi à 18h20 parce qu'il y avait des bouchons avec le Uber, etc. Et du coup, Alex a dit « Bon, bah, je vais rater le match du PSG qui était à 18h45. » Or, tu pensais que le podcast pouvait durer 20 minutes.
C'est que c'était une chronique.
Écoute, là, il est 19h15, le match a commencé depuis 30 minutes. Ça doit te stresser un petit peu, non?
Quelqu'un le score,
non? Ouais,
ah, je peux.
Ah, Aurélien, c'est du direct. Hein, vous allez écouter ça jeudi. mais le, vous aurez
tout le monde
le
aura
score.
Déjà le résultat.
Et là, on aura le score.
Eh ben non, je peux pas. Voilà.
Là, il va. Très bien. À la place, je vais t'offrir des infos sur Uncut Gems. C'est mieux que des buts de Messi. Le film s'inspire du père des frères. Ben non, mais ça, c'est un truc qu'on a déjà dit, ça, tout à l'heure, finalement, Aurélien.
Si, c'est 2-0, les gars.
2-0 pour Paris ?
De Mbappé.
Deux buts d'Mbappé, ça fait plaisir d'avoir le score.
Très content.
Bah, et on retrouve un peu Alex là, avec un sourire, il est de bonne humeur.
Après, on peut enchaîner avec une émission type on refait le match. On reste ça.
Ou sinon, on finit l'émission sur le cinéma avec des voix de commentateurs sportifs. Quoi.
Pourquoi
on refait le film, Alex.
Tiens, est-ce que tu sais imiter des gens, Alex?
Pas du tout.
Pas du tout, non, t'imites personne, toi?
Non.
Parce que là, tu viens de te lancer dans une petite imitation de personne. Imitation de personne.
Voilà, je sais imiter.
Mais dis, toi, t'imites un petit peu, toi.
J'ai déjà fait Bruel ici.
Ouais, il a déjà fait Bruel.
Pas mal, pas mal.
Si t'en as d'autres, t'en as pas des nouveaux en ce moment? Non?
Alex, tu vas bien?
Ouais, il veut l'imposer à chaque fois. Il veut imposer le.
Patrick, pour la vie, Patrick.
Non, alors, il y a un truc. Non, par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est que faut savoir que. Donc, moi, Mehdi, je le connais plus longtemps, depuis le collège. Et il est persuadé. Pardon. Il est persuadé qu'il est un très bon chanteur. C'est vrai ou pas, Mehdi?
Je suis, oui, l'agente féminine est toujours un peu touchée par.
Il est persuadé d'être un bon chanteur, et écoute, moi, c'est mon pote, donc j'ai envie d'être gentil avec lui, mais finalement, t'as jamais chanté en public. Là, c'est peut-être l'occasion. Et je sais que tu maîtrises à la perfection le refrain de Couleur Mentalo. Tu te sens là de nous le faire ou pas?
Non, je vais faire un truc plus technique.
Ah oui, parce qu'il pense maîtriser la montée. C'est quelle montée que tu maîtrises?
C'est l'oreille absolue ou pas?
Non, la montée de Daniel Lévy et de. C'est quoi déjà?
Non, mais vous allez découvrir. On va découvrir tous ensemble. Je n'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau.
Bon alors.
Je suis mal dans ma peau.
Ah ouais.
Bon, il chante bien ou pas?
Ah, c'est
pas le pax masculin que je vise, donc je vais demander plutôt à la mademoiselle qui est sur le plateau.
Il y a Ninon avec nous qui est hors plateau. Ninon, il chante bien ou pas? Ça va, elle a dit.
Et elle est charmée.
Non, rien, t'as bien aimé, ça t'a plu?
Ouais. Surtout, ça, c'est mon préféré, là.
Alex, t'as été épaté un peu ou pas?
J'ai la larme à la vie.
Bah, tu vois, Mehdi, il y a beaucoup de gens qui t'ont écouté aujourd'hui.
En tout cas, merci de m'avoir mis en avant sur.
Pour la première fois sur ton antenne, pour un petit freestyle.
Pour que tu te fasses repérer éventuellement pour un producteur.
Ouais, Dove, appelez là, je crois.
Dove.
Dites-nous sur Twitter.
Je t'avais oublié, Dove.
Dites-nous sur Twitter si Mehdi chante bien. Écoute, moi ça me fait toujours plaisir. Et donc tu me dis que ça séduit les meufs, ça, ce que tu fais à chaque fois.
Ça marche pas mal, ouais.
Ouais, ça marche pas mal. Ok, d'accord.
Mais tu fais ça sur un quai de métro, par exemple.
Très bien, Mehdi. Je suis un peu ému, moi aussi. Pour ce film, on retrouve les infos maintenant qu'on sait qu'Mbappé a mis un doublé. Pour ce film, les frères Safdie étaient tellement insistants sur le fait de tourner en 35 mm qu'ils ont accepté d'avoir un salaire réduit afin de pouvoir tourner en pellicule.
Ah ouais.
Des vrais amoureux du cinéma, les frères Safdie.
Ouais, des vrais fans de peluche.
Kevin Garnett, le célèbre basketteur qui joue dans ce film, son propre rôle a été casté pour deux raisons. La première, c'est que l'action se situe en 2012 et qu'il fallait un joueur qui était une méga star à cette époque. Et la deuxième, c'est que Kevin Garnett avait toujours rêvé d'être acteur. Voilà. En fait, il rêve d'embrasser une carrière d'acteur après sa carrière de joueur NBA.
Mais il joue trop bien, moi, je trouve.
Ouais, il joue bien, il est bon. C'est la femme de Adam Sandler qui a persuadé son mari d'accepter le rôle après avoir lu le script. Lui qui, à la base, n'était pas forcément chaud, comme quoi Sandler voulait pas jouer dans Uncut Gems à la base. C'est la femme qui l'a chauffé, c'est fou.
Et puis il y avait cette anecdote apparemment où en plus quand il a vu le clip de Jay-Z, ça lui a mis une petite pression.
Ouais, bah, ça genre, ouais.
Après Sandler, tu connais Jay-Z quand même.
Si je ne me trompe pas, c'est peut-être une citation apocryphe, mais a déjà dit que lui choisissait ses films en fonction de la localisation et ou si c'est Cancun, c'est sympa quoi. C'est-à-dire plage, bel hôtel, je peux venir avec ma femme et mes enfants.
York,
et voilà,
dans une bijouterie.
Très excitant pour lui.
Mais tu sais que c'est
un coffre de bagnole.
Tu sais que c'est marrant ce que tu dis parce que c'est complètement l'inverse chez Nicole Kidman. J'ai lu ça il y a pas longtemps. Maintenant, elle choisit ses rôles en fonction du lieu le plus proche pour l'école de ses enfants en fait.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'elle fait pratiquement que des rôles à Los Angeles parce qu'elle veut pouvoir emmener ses enfants à l'école, etc. Donc maintenant, elle a joué dans tellement de films qu'elle s'en bat un peu les couilles. Quoi.
Bah après, que des rôles à Los Angeles, c'est quand même 90% du cinéma.
C'est
encore.
Vrai. Ouais, mais elle passe des rôles à l'étranger.
Yogi, un peu
ouais.
Dérangé, donc ouais.
La maison du perso d'Adam Sandler dans le film est la même maison que possède Freddie Mercury dans le film Bohemian Rhapsody. Info courte mais efficace. Voilà, dans Bohemian Rhapsody, c'est la maison d'Adam Sandler.
Putain, j'avais pas du tout remarqué.
Figurez-vous que dans ce film, joue l'actrice Tilda Swinton.
Ah bon?
Ouais, vous allez me dire, mais attendez, il n'y a pas Tilda Swinton dans Uncut Gems.
Le basketteur.
Comment? Qu'est-ce qu'il dit?
Le basketteur.
L'actrice Tilda Swinton.
Oui, bien sûr. Voilà. Non, c'est toi qui joue le basketteur avec une blackface. Pardon, on est pas au bout de ma blague, mais bon.
Non, c'est pas
qui joue avec une carnette.
Non, elle joue pas du tout ça, Alex. À un moment donné, on entend juste sa voix au téléphone pendant les enchères.
Ah bon?
Voilà, c'est ce que joue Tilda Swinton. Et ton info était erronée. Je sais pas où tu l'as chopé, mais elle était erronée.
Elle a pris combien pour l'échange téléphonique?
Ah bah, je pense que c'est gratos, à mon avis.
Sympa. Hein.
Ouais, je pense.
Comme tu as dit.
Personne n'a été payé dans le film?
Je ne peux rien dire.
Ah, tu ne peux rien dire. Il y a quand même eu un petit budget acteur dans le film, non? Dans ton film? La bijouterie que l'on voit dans le film n'existe pas, figurez-vous. On aurait pu le croire. Elle a été créée entièrement en studio avant d'être démantelée. Et c'est vrai que moi, je pensais qu'ils étaient allés dans une vraie bijouterie à New York. En fait, pas du tout. C'est un studio, quoi. C'est la magie du cinéma.
En même temps, les angles de caméra, je pense pas qu'ils auraient pu tous les faire. Enfin, je sais pas. Surtout en 35
mm. Par contre, les autres boutiques sont en dur. C'est vrai.
C'est vrai. Okay. C'est les vraies boutiques, ouais. Ça, par contre, c'est une info que je te donne. Et enfin, pour terminer, la performance de Adam Sandler dans le film a été saluée ni plus ni moins que par l'acteur Daniel Day-Lewis. Ah ouais. Et quand t'es adoubé par ce type, c'est que t'as fait du très bon travail, n'est-ce pas, Aurélien?
Ouais, c'est un truc de fou. Quand on parle de transformation et tout. Daniel Day-Lewis avec Christian Bale, c'est quand même les boss de...
Tiens, j'ai une petite info sur Daniel Day-Lewis à vous donner.
Ah ouais?
Parce que figurez-vous qu'avant, j'habitais de 2005 à 2010 à Place de la Madeleine, et ma voisine du dessus était Isabelle Adjani. Isabelle Adjani, et j'entendais tout. Je vais pas aller plus loin, mais j'entendais tout ce qui se passait dans l'appartement.
Tu te confies aussi, hein.
Je me confie aujourd'hui. Mais d'ailleurs, tu t'en souviens d'ailleurs.
Bah oui, j'étais là.
Oui, t'étais là, bien évidemment. Et donc, on était avec Mehdi.
Toute ta passion pour la chanson, parce qu'elle chante beaucoup, Adjani.
Mais oui, mais on était un soir, tu te rappelles, Mehdi, et on entendait Isabelle Adjani copuler en haut. C'était un bon moment. On sentait privilégié quand même.
C'était un fantasme.
Oui. Et donc, Daniel Day-Lewis était en couple avec Isabelle Adjani. Il a eu un enfant avec Isabelle Adjani, et cet enfant vivait avec Adjani, Place de la Madeleine. Ce qui fait que quand Daniel Day-Lewis venait récupérer le fils, eh ben, il venait directement dans cet immeuble. Et ça m'est déjà arrivé de me retrouver bloqué dans un mini ascenseur avec Daniel Day-Lewis.
C'est stylé, ça.
Et ça, c'est plutôt stylé, tu vois. Je savais que ça te ferait plaisir, cette anecdote.
Tu as dit une fois, genre, Gang of New York, pas mal.
Non, j'ai jamais dit ça.
Non, il s'est contenté de lâcher une caisse, c'est vrai. Très gênant.
Non, mais d'ailleurs, on a une autre,
dans une interview, après Daniel Day-Lewis, il fait genre, je vais vous raconter une anecdote. J'allais chercher mon fils et il y avait un Français, il a pété dans l'ascenseur.
Non, mais par contre, on a une autre info en commun, Mehdi, c'est que finalement, Adjani a fini par déménager. Et un jour, on sort de cet appart avec Mehdi et on voit la porte. Donc, elle habitait en face de chez moi. C'était un duplex, il y avait un étage au-dessus, un étage devant. Et la porte de chez Adjani était ouverte. Et on aperçoit comme ça un appartement complètement vide. Donc, avec Mehdi, on entre. Comme des bons stalkers, d'ailleurs. C'est un bon stalker, Mehdi, parce que
c'est clair.
On monte dans l'appartement parce qu'on sent qu'elle a déménagé et qu'il n'y a plus personne et que c'est fini.
On cherchait en fait des petites culottes, mais.
J'avais eu les pieds sur terre.
Oui, il a entonné ça là, derrière, avec l'écho et tout. Et en fait, on aperçoit un carton par terre. Donc, ça doit être un carton de trucs. Enfin, c'était devant l'entrée, donc carton de trucs qu'ils avaient dû laisser parce que ça faisait 2-3 jours que le carton était là. Donc, à mon avis, de trucs qu'ils voulaient jeter. Et dans le carton, il y avait un livre de Merlin l'Enchanteur. T'en rappelles, Mehdi?
Très bien.
Merlin l'Enchanteur Disney. Et sur la première page, il y avait marqué pour le nom du fils de Daniel Day-Lewis et Isabelle Adjani, de la part de ta-ta-ta, machin, etc. Finalement, j'ai récupéré ce livre. Et beaucoup plus tard, il y a quelques temps, genre il y a un an, j'ai vu que ce gars était sur Insta, leur fils, et que maintenant, c'est devenu une sorte de mannequin méga connu aux États-Unis et tout. Et en fait, j'ai fait une story où je montrais le livre avec marqué pour machin, de la part de ta-ta-machin. Et j'ai nommé le fils de Daniel Day-Lewis. Et du coup, il a fait une story après pour dire « Ah, trop bien, trop de bons souvenirs de revoir ce livre, etc. » Je lui dis « Bah, si tu veux, je te le renvoie et tout. » Il me fait « Non, je m'en branle. » Du coup...
C'était juste pour Instagram.
Du coup, j'ai ce livre qui appartient au fils de Daniel Day-Lewis. Voilà, non, ça vient compléter l'info sur Daniel Day-Lewis. On approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, le segment du dernier et de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines, Alex... Première question, le dernier film que tu as vu au cinéma?
Le dernier Wes Anderson.
The French Dispatch.
Ouais, voilà.
Et alors, t'as aimé?
Beaucoup aimé. Parfois, mon esprit sortait du film parce que c'était un peu.
Exigeant.
Ouais. C'est vrai que c'était très riche. Beaucoup de plans, des histoires un peu déconstruites. Mais à chaque fois que j'y revenais, j'y prenais du plaisir. J'étais un peu ébahi, quoi. C'était magnifique.
Ok.
Mais un peu chiant.
Mais ça, j'ai un peu pensé ça du film aussi.
Pareil.
J'ai beaucoup aimé, mais il y avait un côté où parfois je m'ennuyais un petit peu. Mais en sortant de la salle, je me disais, c'est quand même un privilège de voir des plans aussi construits, aussi riches. Ouais. C'est assez fou.
Bah, tu vois, la redite de mai 68, l'histoire n'est pas non plus incroyable, mais il y a quelques scènes belles.
Le dernier film. Ouais, pardon.
Non, je disais, je me suis micro-endormi. J'ai
fait
des micro-siestes.
Très bien.
Sur les deux premières histoires.
Voilà. Le dernier film que tu as vu via une plateforme?
Non, je me suis refait tous les Inaritu, mais en les louant, du coup.
Ok.
Voilà. Sur Canal, certains étaient dispo, donc j'ai revu Babel, Amour Chienne et 21 grammes, et j'avais oublié à quel point c'est un très très bon réalisateur.
Mais en vrai, t'aurais pu dire ton film sur plateforme.
Je ne l'ai pas vu.
Tu l'as pas vu, tu vois.
Non, comme l'acteur qui est mort avant la sortie là, dont tu parlais tout à l'heure.
Oui, d'accord. Très bien. La dernière série que tu as regardée?
Là, j'ai commencé celle de Blanche Gardin ce matin, parce que j'étais un peu inquiet. Enfin, bon, j'aime bien Blanche Gardin aussi, mais j'écris une série depuis 2 ans avec Benoît Forgeard, réalisateur de Yves, que j'ai coécrit. Et on écrit une série qui s'appelle Perle sur une fille qui a des problèmes gastriques et qui pète et qui va finir par se lancer dans un spectacle de pétomanie. Donc c'est un peu l'inverse de la série de Blanche Gardin, mais j'avais très peur qu'en regardant le pilote,
ah ouais,
dire que on doit arrêter.
Parle de plus.
Voilà. Mais bon. Et alors du coup non.
Non, et je crois que la nôtre est mieux.
À ce qui paraît, c'est pas mal.
Ouais, non, c'est quand même très drôle. Non,
c'est
fort, surtout si tu regardes la construction des épisodes, t'as 6 à 7 séquences, donc c'est très long à chaque fois. Mais c'est pas gênant, c'est du 26 minutes. Et clairement, quand tu regardes une autre série, c'est une scène d'1 minute, donc il y a une multiplication de plans. Alors que voilà, les producteurs et diffuseurs devraient faire confiance à la lenteur et à l'installation des scènes.
Tiens, d'ailleurs, la semaine dernière, en parlant de séries dispo sur Canal, je me suis dit, tiens, je vais regarder une de mes séries préférées qui est sortie sur Canal, que j'ai trouvé très drôle, qui est Importantissime, de Chris Esquer. Donc je me remets la série, je me remets les épisodes un par un. Et qu'est-ce que je vois dans le premier épisode? Toi.
En train de coiffer,
on te voit 2 secondes à l'écran, en train de coiffer Chris Esquer.
C'était une opportunité.
Bah oui, bah alors raconte-nous pourquoi tu t'es retrouvé sur Importantissime.
Parce que à l'époque on était un peu copains, quoi. On buvait beaucoup de coups. Et on avait des projets qui n'ont pas forcément abouti, mais il m'avait proposé de faire une apparition, quoi. Voilà.
Très bien.
Voilà. Qui n'est pas revenu ou qui a été remplacé.
Voilà.
Sinon, en termes de série, forcément, parce que j'ai regardé que 2 épisodes, hein, c'était surtout pour m'assurer, je regarderai quand même la fin, mais bon, Succession, forcément, quoi.
Okay.
Je suis à fond et ça fait du bien aussi de reprendre un rythme hebdomadaire et pas tout binger d'un coup.
Mais alors.
Ah ouais, t'aimes bien, toi?
Ouais, j'aime bien.
Moi, j'aime bien binger, mais c'est vrai que moi, une des rares séries que je regarde, c'est Curb Your Enthusiasm. Et là, du coup, c'est un épisode par lundi. Mais comme tu dis, je trouve ça bien de se dire, ok, c'est un peu le rendez-vous du lundi, tu regardes l'épisode qui vient de sortir, etc. Parfois, tu peux avoir un surplein quand tu regardes un peu les épisodes d'un coup comme ça. Et j'avais lu un tweet, Aurélien, dans lequel tu disais qu'apparemment, la dernière saison de Succession, moi, j'ai jamais vu la série, mais que ça mettait du temps à se lancer. Ça a changé un petit peu ou pas?
Oui. Après que je l'ai dit, il y a eu un épisode qui m'a bien chauffé. Mais sinon, je trouve quand même que, c'est peut-être parce que ça fait un gros, il y a eu un gros écart entre les 2 saisons que j'avais regardé d'un coup et cette saison-là, il y a presque 1 an et demi, je crois. Et là, j'ai l'impression que c'est pourtant la même chose, en fait.
Alex?
Ouais, non, je pourrais partager ton avis, mais moi, ça me plaît, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est, l'intrigue est la même depuis le départ, hein. L'idée, c'est d'essayer de faire tomber le père. Là, pour le coup, Kendall est seul face au monde, face à sa famille.
Ouais.
Et oui, enfin, il y a plein de choses qui sont superficielles, cosmétiques, tous les enjeux financiers, de montage ou autre. C'est pas très intéressant, mais il y a des performances d'acteurs qui, et des séquences, des dialogues savoureux qui, pour moi, sauvent complètement.
Non, c'est vrai que ça envoie.
Mais tu regardes un peu des séries, toi, ou pas?
Justement, je réfléchissais à... Justement
pour... Toi, tu regardes pas mal de séries docu sur Netflix, non?
Oui, bon, tous les trucs de tueurs en série ou...
C'est
moins...
C'est vrai que tu es fan de ça, toi.
J'aime beaucoup Richard Ramirez.
Ouais. Alors, il a fait un truc très creepy récemment.
Ah oui.
C'est qu'il a vu...
Ah oui.
Bah oui. Parce qu'il a vu le reportage sur Richard Ramirez sur Netflix. Est-ce que vous l'avez vu, ce reportage?
C'est qui, celui-là?
Richard Ramirez, c'est un des plus grands tueurs en série de l'histoire.
J'en ai vu un paquet, hein, mais c'est quoi son kiff?
C'était The Night Stalker.
Ouais,
Night Stalker, oui.
Mais là, ce que tu vas dire, c'est très fort.
Ouais, c'est
pas Ted Bundy, celui-là?
Non, ça, c'est un autre.
Okay.
Et du coup, dans le documentaire, on voyait un plan resserré sur les chaussures de Richard Ramirez.
Les baskets.
Et il avait des belles baskets. Et Mehdi a acheté les mêmes que Richard Ramirez.
Oh non.
Du coup, il porte les mêmes chaussures que les mêmes baskets modèle de Richard Ramirez. Hein. T'es le seul à les posséder. T'es le seul à les posséder.
T'as trouvé ça où? T'as tapé basket Richard Ramirez.
Non, j'ai repris le modèle sur les
mêmes. Oh,
c'est un vieux modèle américain, une vieille marque.
D'ailleurs, c'est dommage parce qu'on a été invité par Camino TV pour présenter nos derniers achats récemment. Je suis là avec Mehdi. T'aurais dû présenter tes chaussures de Richard Ramirez.
À la place, il a présenté le costume de Tom Hanks dans Philadelphia qui s'est acheté aussi sur les grosses spéciaux.
Là, c'est les couleurs, qu'est-ce que tu veux.
Et tu places cette anecdote aux meufs que t'as les chaussures de Richard Ramirez ou pas? Non, ça tu le dis
non,
pas.
Non, mais quand elles viennent chez moi, elles voient effectivement mes paires de baskets à côté du mur. Contre le mur.
Non, tu dors avec, non?
Je dors avec.
Très bien. Bah écoute, c'est une info savoureuse, Mehdi. Bon.
Parce que pour info, c'est...
Oui.
Il y a une semelle, la semelle, en fait. C'est comme ça qu'il se fait attraper. C'est parce qu'en fait, il marche dans,
oui.
Voilà, il marche dans la boue.
Oui, parce que les flics n'avaient pas à le choper voilà. Et ils l'ont chopé à cause des baskets. Donc tes baskets ont quand même une importance dans
une
le.
Une importance
dans
le... Et une vraie histoire, en plus.
C'est une vraie...
Dans la vie de Jean-Marc Richard Ramirez. C'est un vrai hommage que tu fais.
C'est les baskets qui l'ont fait tomber, finalement.
Ouais.
Non, mais c'est comme par exemple, moi je collectionne pas mal de t-shirts d'époque, tu le sais, Aurélien. Et ouais. En fait, il y a un t-shirt que je trouve très cool, mais je trouve que c'est pas portable.
Ouais, moi aussi j'aime bien celui-là.
Ouais, bon,
je sais ce que tu veux dire.
Parce que. Est-ce que, dites-moi si c'est portable ou pas. Mais à l'époque où il y a eu le procès O.J. Simpson, en fait, il y avait plein de fans qui étaient là, genre, non, O.J. is innocent. Et ils avaient fait plein de t-shirts qui étaient assez cool pour l'époque, en 94. Et du coup, il y a plein de t-shirts maintenant qui sont à vendre, mais ils sont souvent à 200, 300 euros parce qu'ils sont devenus un peu cultes. Est-ce que c'est portable un t-shirt O.J. Simpson? Je te pose la question, Alex.
Moi, je le porte direct. Tu m'as donné envie.
Ouais. Ben,
je vais me le faire moi-même parce que c'est un peu cher.
Non, mais les t-shirts, tu parlais de ça, Mehdi? Tu pensais que j'allais parler
ouais,
de ça? Et allez checker les posters de O.J. Simpson. Bah, tu sais, on voit la tête de O.J. Simpson. Ou alors, tu sais, il y a des photos où on voit la voiture quand il avait essayé de s'enfuir là, avec son passeport.
Ouais.
Et il est marqué Run, O.J., Run.
Mais tu sais que ça revient aussi. Ça revient aussi à Uncut James parce que, genre, les fameuses scènes d'hélicoptère qu'il y a dans Good Time et donc dans le clip de Jay-Z. Ils ont dit dans l'interview que tu m'avais passé là, JB, que l'influence première c'était la course, enfin la fuite de O.J. Simpson
bah,
en bagnole avec
plus pour mettre
l'hélicoptère et tout ça. Bah, O.J. Simpson maintenant c'est pop. Enfin, je veux dire.
Vous validez ce choix de t-shirt tout ces.
Bah, ouais. Ouais,
bah, j'ai envie de le porter. Bah, je vais peut-être l'acheter. Ouais, je vous le cache pas.
C'était une petite phrase genre if it don't fit, you must quit. Bah c'est bon, tu l'as ton t-shirt.
D'ailleurs, je me souviens un jour quand j'habitais à Montréal, j'étais parti à New York en Greyhound, donc en bus, tout seul et en général. Quand tu parles le soir, c'est vraiment tu t'arrêtes dans des gares comme ça un peu tu vois où ça craint un peu genre ça. Vraiment sale et tout. Ouais. Et on s'est arrêté à 4h du matin, tout le monde était très claqué et tout et il y avait un clodo qui était là dans la gare, il répétait en boucle pendant une heure, il avait un gant comme ça, il faisait doesn't fit, il répétait le truc de Jay Simpson, c'était très badant ce soir là. La dernière chanson que tu as écoutée, Alex?
La mienne.
Non, bah là, techniquement, c'est pas faux.
Oui, c'est vrai que c'est ça. Ouais. On va écouter un extrait de cette chanson.
Je n'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau.
Bon, alors.
Je suis mal dans ma peau.
J'aime beaucoup Gwendoline de Audi RTT.
Je préfère qu'on fasse rien à deux en débitant de la merde, c'est mieux. L'occasion de fumer des clopes, niquer notre RSA comme des miottes.
Ok.
Voilà.
C'est quoi comme style de son?
Violent.
Ok, d'accord, très bien. Parfait.
Et rendez-vous au PMU à 8h du matin, en retraite, en mobylette, avec tous les copains. Un truc comme ça.
Elle chante comme ça en vrai ou pas?
C'est un mec.
Ok, c'est un mec.
Et ouais, non, bah c'est du rock quoi. Et sinon, l'album de. Comment il s'appelle? Ah, je l'ai écouté en venant en plus. Bah, super.
Reggaeton?
Non, pour le coup, un peu lo-fi. Je peux regarder mon téléphone.
Ouais, pendant que tu cherches, un truc qui m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu les titres de tes chansons sur Spotify, c'est qu'à un moment donné, il y a un feat avec un type et le nom du type c'est Lil Grégory.
Ah, ouais. 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 Ah bah lui il est au fond de la Bologne, non?
petit Grégory.
Il est revenu pour
Lil Grégory.
Ouais.
Oui, donc alors t'as retrouvé le son alors, Alex?
Ouais, enfin le son, l'album, le dernier album de d'Ariel Pink.
Song of freedom at each other breathing out.
Ok, cool. Voilà. Tu savais que Ariel Pink était un pro-Trump?
Ouais, je sais.
Tu sais que, en fait, moi, j'aime beaucoup un article qui s'appelle John Moss.
Ah oui, je sais.
Ouais, voilà.
Philosophe.
Et en fait, John Moss et
Ariel Pink
étaient allés soutenir Trump.
Ouais.
Et je me souviens, j'étais là genre, bon, c'est relou, tu vois.
Ouais.
Enfin bref, mais je continue d'écouter leur son.
De redire ça, mais vous savez, c'est quoi le premier clip qu'ont fait les frères Safdie?
Non.
Un clip de 2015 d'Ariel Pink.
Sérieux?
Ah ouais.
Voilà.
Et tous rejoints.
C'est fou, non? Content d'être venu.
C'est incroyable ce qui se passe.
Incroyable.
Mais il avait une sortie très marrante sur Trump, Ariel Pink. Bon, je crois qu'il a eu quelques sorties homophobes, mais il a aussi dit qu'il était tellement gay, genre de Trump, et qu'il pouvait lui mettre dans le cul quand il voulait.
Quoi. Ok, donc, pourquoi pas. Qui a envie de la mettre, Mehdi? Trump? Séduisant ou pas?
C'est un bel homme.
Oui,
oui. Oh non. Okay. Oh non.
Bel homme, Alex, Trump ou pas?
Très beaux implants faits en Turquie.
Bah oui,
ça se regroupe, voilà, ça se regroupe.
Avec la chronique de Minette Express. Bravo.
Se regroupe, bravo.
Incroyable émission. Le dernier livre que tu as lu, Alex?
Le Voyant des Tempes d'Abel Quentin. Je crois que c'est le prix de Flore, mais je l'avais lu avant. Un suiveur, donc je regrette de l'avoir lu désormais. Non, vraiment, c'est trop bien. C'est un mélange un peu entre Philippe Roth, Lattache et du Houellebecq, mais limite en mieux. Alors, je trouve que c'est très bien écrit, très drôle, et voilà, ça parle un peu de cancel culture, mais de manière intelligente. Voilà.
La dernière BD que tu as lu, est-ce que tu lis des BD?
Je lis des BD. J'ai relu. C'était il y a deux semaines, ça faisait longtemps que j'en avais pas lu parce que je ne suis pas un gros bébé. c'est caricature de Daniel Cloves.
Ok.
Voilà, c'est plusieurs histoires très drôles, enfin très sinistres, mais drôles.
C'est vrai que c'est très cool. Le dernier objet culturel que tu as acheté?
Deux places au Parc des Princes.
Ah, pas mal. Pour voir PSG Nantes.
Voilà.
T'as assisté à un but de Messi?
Ouais, le premier but.
Très bien. C'était culte ou pas?
Dans l'histoire. Ouais, surtout qu'on met deux autres buts. Un but contre son camp, je crois, et un but de raccro. Mais non, j'ai acheté des livres quand même. Je fais des cadeaux là.
Ouais, des cadeaux de Noël.
Ouais.
Très bien, ouais. Je note. Et enfin, pour terminer, le dernier ou la dernière artiste que tu as suivi sur les réseaux, est-ce que tu as suivi un compte ou un artiste comme ça que tu aimes bien?
Mehdi, je crois. Liké toutes tes photos. Je t'ai dit, c'est qui lui?
Comment il s'appelle? Benjamin Tranier. Okay. Voilà, je l'ai follow back.
Très bien. Voilà. Pas mal. C'est très gentil de follow back.
Quel personnage.
Ouais,
ce podcast est désormais terminé. Alex, c'était cool de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu, ta petite actu? Est-ce que t'as une actu?
Ouais, comme je disais, donc Cardio, mon court-métrage, disponible gratuitement sur OCS pendant un mois à compter de vendredi.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu le plot de ce film?
Alors, Lionel Abelansky incarne un runner du dimanche qui court dans les bois de Vincennes et qui va tomber sur ce qui semble être une travailleuse du sexe. Il s'approche, il demande son prix et puis il a l'art de plusieurs coups de couteau. Il repart, ensanglanté et malheur en fait. C'était un acteur d'un film étudiant qui se jouait dans les bois. Et donc l'acteur qui incarnait une travailleuse du sexe est mort. Et donc voilà, un peu un imbroglio et qui va donner lieu à d'autres... Imbroglio.
Et il y a aussi, d'ailleurs, elle joue la femme dans le film de Lionel Abelansky, dont j'ai oublié le nom.
Élise Lernicole.
Qui fait partie des Robin des Bois.
Et ouais,
qui joue dans le film. Bon casting quand même.
Ouais, écoute.
Très bien.
Bravo. Ce qu'on peut.
C'était ton premier film.
C'était mon premier film, ouais, exactement.
Bah ça va, c'est cool comme acteur pour un premier film.
Ouais.
Bravo. C'est donc la fin de cet épisode. On vous conseille de voir ou de revoir Uncut Gems, film dispo sur Netflix. Et par ailleurs, si vous ne savez pas quoi regarder, on vous conseille également de vous promener sur le site Cinémature de Wheel of Cinema, outil parfait pour trouver des idées. Merci à Ninon et Timothée qui ont contribué à réaliser ce podcast. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour l'épisode de Noël avec deux d'entre vous. À bientôt, bye.